Bonjour, quel bonheur d'être aujourd'hui avec la psychologue Marie-Estelle Dupont. Je vais vous dire pourquoi, Marie-Estelle Dupont, parce que vous avez fait preuve. D'abord parce qu'on se méfie toujours, dès qu'il y a le mot psy, on se dit attention, qu'est-ce qu'on va tomber derrière? Il y a des amalgames, le développement personnel, etc. Et puis rares sont les personnes qui nous emmènent avec intelligence dans des chemins, dans la psychologie, qui, quand on n'est pas concerné, qui nous amènent sur des chemins qui sont parfois parallèles à ceux de la philosophie. Et vous faites partie de ces personnes, Marie-Estelle Dupont. Voilà. On va parler de votre nouveau livre, L'Antimère. Une psychologue raconte comment elle a survécu à une mère maltraitante. Votre livre est très bien écrit. Il aurait été écrit comme une fiction à la Mary Higgins Clark. Ça aurait dit, c'est mérité, aucune surprise. J'ai été surpris par le succès rencontré par votre livre, ça n'a rien à voir avec votre talent, Marie-Estelle Dupont, mais ce succès expliqué par beaucoup de gens, j'ai vécu aussi dans cette situation. Et quiconque n'a pas connu ce type de situation est un peu surpris, parce que c'est vrai qu'on en parle, j'allais dire, on n'en parle pas dans les médias.
Tout à fait, c'est un impensé de la société en fait, et c'est ce qui m'a permis de tenir ce projet sans abandonner, parce que vous vous doutez bien que c'était difficile d'aller au bout d'un tel écrit. Et en réalité, moi aussi, j'étais étonnée par le succès, mais j'ai compris qu'on était en train de lever un tabou et de libérer en fait une parole sur un sujet fondamental et universel, qui est la violence intrafamiliale, et comment la jalousie, de manière muette et sournoise, creuse des sillons qui viennent briser les liens, briser la relation affective entre les frères et sœurs, avec la famille élargie, isoler l'individu et donner de lui une image tout à fait fausse à des personnes un petit peu extérieures au cercle familial premier. Et en réalité, voilà, c'est un impensé de la société, mais c'est un impensé de la société parce que je crois que on oscille entre deux sentiments et dans quelque chose d'un petit peu manichéen par rapport à la famille. On a soit la vision d'une maternité très sentimentaliste, où tout n'est que bonheur, joie, moelleuse et contentement, ou quelque chose qui est vécu par un contresens total, comme le cercueil de la féminité, la fin du couple, que des contraintes, l'absence de liberté, etc., ce qui pour moi est une vision extrêmement dégradée et adolescente, je dirais, de la maternité. C'est-à-dire que la liberté d'être mère, effectivement, ce n'est pas celle de ne pas avoir de contraintes et de se lever tard le matin. Notre liberté. Donc, entre ces deux visions, on n'avait pas grand-chose dans la littérature depuis Folcoche. Et pouvoir évoquer l'idée qu'une génitrice puisse ne pas accéder à l'amour et ne pas aimer son enfant, c'est contraire à l'entendement, c'est contraire à la nature, puisque dans le règne animal, nous faisons partie des mammifères, hein, pas des vivipares. Et donc, pour les mammifères, la survie de l'espèce dépend du lien d'attachement entre la mère et le petit. Et donc, quand on tombe sur des mères médées, des mères monstrueuses, des mères qui n'aiment pas leur enfant, on se dit, mais c'est contre nature, comment est-ce possible? Puisque c'est tellement animal chez nous, c'est à un niveau tellement animal. Voilà, donc je crois que ça a fait écho chez beaucoup de gens qui vivent des tragédies familiales et dont les vies sont brisées parce qu'ils n'ont pas d'assises, ils n'ont pas de socle. En fait, leurs racines sont poreuses.
Puis ça n'arrive. Parfois, on peut se dire, ça arrive dans certains milieux sociaux, mais pas dans celui auquel vous semblez appartenir.
Oui, alors là, il y a eu ce biais souvent de vouloir avoir un déterminisme sociologique ou psychiatrique à toute tragédie humaine. Moi, je crois que le mal existe et que il n'y a pas toujours l'excuse de la pauvreté ou de la précarité intellectuelle. Au contraire, je dirais presque que le fait d'être dans un milieu aisé intellectuellement, avec des livres de l'instruction, des parents diplômés, aller dans des bonnes écoles et aisés matériellement, hein, puisque mon père subvenait très, très aisément, en fait, enfin en travaillant beaucoup, mais son salaire suffisait largement à nourrir une femme et de nombreux enfants. Donc, je crois que cela peut aussi enfermer dans le piège des apparences, ou au nom du qu'en dira-t-on, au nom de « il faut être une famille bien sous tout rapport », on va d'autant plus verrouiller la parole enfermer l'enfant dans l'image. Mais enfin, tu as tout, voilà, tu fais de la danse, tu fais du piano, tu vas dans des bonnes écoles. Où est le problème ? Passe un coup de balai, voyons. Tu vois bien qu'on t'aime puisqu'il ne te manque rien. Et donc, à nouveau, on réduit l'être humain, évidemment, à des besoins strictement matériels et organiques. Or, encore une fois, nous sommes des mammifères et nos besoins vitaux sont aussi des besoins affectifs. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de là-dessus, je ne crois pas qu'il y ait d'inégalité sociale. Je crois que cette haine de la mère pour son propre enfant...
Plutôt même une égalité sociale dans la haine, puisque ça se retrouve dans tous les milieux.
Tout à fait, il y a une grande égalité sociale dans la haine, comme il y a une grande égalité sociale dans l'absence d'introspection, le fait de ne pas se remettre en question, on peut rencontrer ça, quel que soit le milieu et le niveau d'instruction. Et de la même manière, je crois qu'on ne peut pas toujours avoir l'excuse de la psychiatrie. Il y a des femmes qui souffrent d'un trouble psychiatrique ou psychologique avéré que je reçois en consultation, qui sont déprimées ou qui ont un épisode psychotique dans leurs antécédents, mais qui ne sont pas des mères toxiques et maltraitantes et qui justement veulent se prendre en charge pour que leur enfant reste un enfant et ne devienne pas un thérapeute ou un souffre-douleur. Et à l'inverse, il y a des mères qui n'ont pas de profil psychiatrique, mais qui n'ont pas envie d'ouvrir leur cœur, qui ne sont pas dans l'amour, qui ne sont pas dans l'empathie, tout simplement parce que on vit et on éduque avec sa personnalité. Et quand vous avez un profil narcissique, un profil psychopathique, vous pouvez vous reproduire et fonder une famille, et ben vos enfants, ils auront une mère ou un père narcissique, pervers narcissique ou psychopathe. Je veux dire, ces gens-là aussi fondent des familles. Donc, il y a des enfants qui ont ces parents-là.
Est-ce que ça peut se transmettre entre les générations ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend souvent dans les procès, il s'est comporté de telle manière parce qu'il a aussi été battu par ses parents ou parce que ses parents se comportaient ainsi, on a reproduit cela. Et est-ce qu'il est possible qu'après, on retrouve cela ?
Ce qui est sûr, c'est que le mimétisme est une des manifestations de l'attachement d'un enfant à son parent. Donc notre premier modèle laisse une empreinte très importante. Et si l'enfant n'a pas la force de caractère, n'a pas ce qu'on appelle du soutien social dans mon jargon, c'est-à-dire d'autres figures par les enseignants, par des grands-parents, par des oncles, par des tantes, un autre type de maternage de paternité, il lui est difficile de penser qu'autre chose peut être bon. Donc la psychothérapie, le fait de rencontrer des adultes bienveillants, le fait d'être capable de désidéaliser ses parents et une fois qu'on veut devenir parent, de se dire « Ok, je vais ouvrir l'héritage psychologique de la famille et dire qu'est-ce que je laisse et qu'est-ce que je prends et je trie le bon grain de l'ivraie. Et ok, ça m'a aidé, mais ça, je veux surtout pas. Voilà, je veux pas que mon enfant ressente ce que moi j'ai ressenti. Donc, comment est-ce que je fais au moment où il abordera sa puberté, etc., etc. ?» Ce sont des questionnements extrêmement importants. Et là, la notion d'introspection va faire la différence. C'est-à-dire que soit je vais faire un copier-coller, soit je vais faire un pas de côté et me dire qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce que ça m'a fait, et qu'est-ce que j'en fais pour mes enfants, et qu'est-ce que je transmets. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que on peut donner quelque chose qu'on a pas reçu, ça j'en suis persuadée, et par mon métier, et par mon parcours.
Est-ce que Marie-Estelle Dupont n'a pas chacun au fond de nous un côté docteur Frankenstein, c'est-à-dire que on veut quelque chose et la créature, finalement, si elle ne ressemble pas à son plan initial, on est déçu. Je dis pas que ça va se terminer par la maltraitance, mais on est toujours déçu. Quand vous recrutez un salarié, vous êtes chef d'entreprise, vous faites une idée de ce qui va être, l'entretien était excellent, puis au bout de 2 mois, vous apercevez que c'est pas ça. Et vous avez pas envie de détruire la créature, évidemment. Mais vous êtes hyper déçu dans la relation de couple, c'est la même chose, j'allais dire, un peu partout.
Oui, bien sûr, puisque en fait, on est déçu à la hauteur de ses attentes. Donc, le bébé fantasmé, l'enfant rêvé quand la femme est enceinte, c'est un fantasme qui doit être conscientisé et élaboré, parce que sinon, l'enfant va être bombardé de projections parentales. Alors, on ne peut que projeter. Évidemment, on est tous des êtres de projection. On imagine quelque chose de l'autre. On se raconte une histoire avec l'autre. On imagine quelque chose du nouveau boulot qu'on prend. On est toujours dans la projection. Mais conscientiser pourquoi on fait cet enfant et diminuer les attentes, c'est-à-dire je n'attends pas que cet enfant soit mon complément narcissique, je n'attends pas que cet enfant fasse ceci ou cela, je vais essayer de donner à mon enfant les outils pour être bien dans sa peau et faire son chemin. Mais pas que son chemin soit la compensation de celui que moi j'ai raté ou me mettre en valeur. Voilà. Donc quand on reste coincé dans ses projections, eh ben on passe à côté de son gosse, on le rencontre pas, on lui dit ben non, mais toi t'es l'aîné de la famille fait polytechnique, donc tu feras polytechnique, le second il fait médecine, tu feras médecine, et là ben on a foiré. Et l'enfant va se taper des années de thérapie, sinon il va se taper burn-out sur burn-out. Et puis quand on peut prendre un peu de recul avec, je vous la fais courte, hein, mais quand on peut prendre un petit peu de recul par rapport à ses projections, normalement on est en capacité de faire un travail qui nous permet d'être suffisamment bien avec soi, de s'accepter soi, d'être suffisamment bien dans sa peau, pour qu'on n'ait pas besoin que ce soit notre enfant qui nous répare. Donc si je suis OK avec moi, OK avec mes frustrations, OK avec mes choix, OK avec mes blessures, et ben je vais laisser plus de champ à mon enfant pour devenir ce qu'il est. Et je vais avoir plus envie de l'aider à actualiser, à réaliser son potentiel d'artiste, son potentiel de mathématicien, peu importe. Et je vais moins avoir besoin qu'ils viennent me rassurer sur ce que je suis, parce que je pense que ce qui peut faire le lit de beaucoup de toxicité dans le lien parent-enfant et parfois de maltraitance, c'est aussi le fait que le parent ne s'aime pas. Je veux dire, quand on s'aime et qu'on est bien avec soi, globalement, on enquiquine moins les autres. On leur demande moins d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et c'est vrai dans le couple, mais c'est vrai dans la relation parent-enfant.
Existe-t-il des chiffres, des statistiques pour savoir ce que cela représente ? Parce qu'on s'entende bien, Marie-Estelle Dupont, on parle d'une sorte de violence qui n'est pas la violence physique qu'on voit, qu'on peut lire dans les faits divers. Hein. C'est une autre forme de violence qui est permanente cette fois-ci et qui est psychologique.
Oui, c'est une violence qui est chronique et c'est une violence qui se décline sous forme verbale par les humiliations, sous forme de ce que j'appelle des non-lieux, c'est-à-dire ce sont des traumas en creux, c'est pas ce que l'on me fait, mais c'est ce que l'on ne me donne pas qui traumatise, c'est-à-dire l'isolement chronique de l'enfant qui est coupé de ses pères, qui est coupé d'une partie de sa famille, etc., et qui donc ne peut pas créer des liens de confiance et d'attachement pour avoir autre chose comme image de lui qui lui est renvoyée. Et puis parfois c'était aussi des violences physiques. Effectivement, c'est pas ce qu'on voit dans les faits divers, mais quand ça s'installe, le cerveau de l'enfant n'est pas modelé par la gravité de quelque chose, sa tristesse ou son côté positif. Il est modelé par la répétition. Donc le fait que quelque chose s'installe dans la durée, ça va vraiment créer dans le cerveau de l'enfant des sécrétions hormonales très spécifiques, beaucoup de cortisol, beaucoup d'hormones de stress, beaucoup d'hypervigilance, une sorte d'anticipation anxieuse permanente du danger. Quand on voit des patients adultes arriver avec des troubles anxieux généralisés, évidemment que ça fait partie des hypothèses qu'on pose. Quel était le climat quand il était tout petit pour ne pas avoir pu construire une sécurité intérieure et la capacité à se détendre ? C'est une hypothèse, ça n'est pas la seule, mais ça en fait partie évidemment. Alors, dans les chiffres qu'on a, c'est qu'on aurait probablement environ 40% des troubles psychiatriques qui seraient directement liés à des maltraitances dans l'enfance. Donc des climats, c'est des maltraitances qui peuvent être des climats incestuels, des coups, des abandons répétés, des humiliations. L'humiliation est, je pense, la maltraitance, une des maltraitances les plus prédisposantes à la violence chez l'adulte. Parce que l'enfant humilié, s'il ne travaille pas sur lui en psychothérapie, va engranger une telle colère, une telle rage, une telle négativité que s'il ne se reconstruit pas, il est vraiment menacé de passer à l'acte. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, l'humiliation, c'est la pire méthode éducative parce que vous fabriquez de la colère. Et tôt ou tard, en fait, ça va ressortir soit sous forme de violence vis-à-vis d'autrui, soit sous forme de violence retournée contre soi avec des tentatives de suicide.
Et pas simplement éducative. Vous savez, quand vous humiliez un adversaire et qu'il n'a plus rien à perdre, c'est là où il devient méchant, que ça soit en Exactement. Politique, dans les affaires. C'est pour ça que quand on a gagné un bras de fer face à quelqu'un, la personne intelligente doit toujours lui laisser quelque chose et faire en sorte qu'elle ne soit pas humiliée. Absolument. C'est là où l'adversaire devient gentil, finalement.
Il faut éviter d'être dans la posture triomphale, bien sûr. Parce que on peut réveiller la partie sombre et la haine chez l'autre.
Il y a un côté presque dans le livre sur votre maman, j'ai vu un côté presque méditerranéen, presque moyen-oriental, entre je t'aime et puis je te hais, et ça varie en quelques minutes.
Oui, alors vous savez, dans la perversion narcissique, il y a l'humiliation, il y a la culpabilisation, il y a le chantage, il y a l'isolement, mais il y a quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, j'avais fait le parallèle avec la crise sanitaire en disant « on se conduit comme une famille maltraitante avec nos enfants », qui est l'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on met l'enfant dans une mission impossible. L'injonction paradoxale, c'est tu ne dois pas rater parce que tu me ferais honte et tu serais une merde, mais tu ne dois pas réussir parce que tu me ferais de l'ombre. Et donc j'étais tour à tour le soleil, le thérapeute, la seule personne qui pouvait comprendre ma mère, puis une merde, une garce, une salope, parce que j'avais laissé un cheveu sur ma tête d'oreiller. Et cette oscillation entre la glorification idéalisée, t'es le messie, et tu es Satan 5 minutes après, ça ne veut pas dire que ma mère était bipolaire. En revanche, ça veut dire qu'elle était incapable de voir son enfant comme une personne. Ça n'était que du superlatif. Donc, j'étais soit pas humaine dans le superlatif, soit pas humaine dans le négatif. Mais à aucun moment, j'étais juste une petite fille. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas. Je n'étais jamais une enfant. Voilà, j'étais un monstre ou j'étais Dieu, mais je n'étais jamais une enfant. Et pour arriver à avoir une image de soi à peu près réaliste et pas complètement borderline et pas complètement oscillante entre l'orgueil et l'humiliation et la honte, ça demande de faire un gros travail sur soi. Mais il est faisable. Et c'est vraiment le message du livre. C'est vraiment le message du livre. Vous pouvez avoir été plombé et en faire de l'or après, c'est-à-dire apprendre à vous aimer, aimer la vie, aimer les autres et recevoir de l'amour. Et c'est ça l'or. C'est d'être capable de recevoir de l'amour quand on vient de là. C'est ça le plus dur.
Merci Marie-Estelle Dupont de nous avoir parlé de votre livre. Quand je vous écoutais sur ces injonctions paradoxales et ce parallèle avec la crise sanitaire, dans mon cerveau est venue une image, une sorte de Christophe Castaner en jupe qui vous dit « Sors, ne sors pas, reste chez toi, je t'aime, t'es un mauvais citoyen » et tout qui s'enchaîne. Voilà, ça, c'est l'image.
On a été très pervers avec nos jeunes, très maltraitants, moi je trouve le parallèle.
C'est là où je dis que vous étiez très courageux de le dire. Vous rendez compte, si on était immortel, je veux bien qu'on nous bouffe 2 ans de notre vie, mais on n'est pas immortel. Et surtout,
moi, je
de 18-20 ans.
Vous savez pourquoi? Parce que je veux bien qu'on me bouffe, si je suis immortel à moi, entre 40 et 42 ans, 2 ans de ma vie, je ne veux pas qu'on les bouffe à l'âge
18-20 ans.
On est en train de construire son identité, c'est-à-dire si vous n'avez pas de contacts sociaux, ça n'est pas récupérable. Et ce que je vois aujourd'hui, comme dégâts psychiques, c'est bien pire qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'ils sont pas remis, ces jeunes. Alors, les adultes disent, bah quoi, ils vont au resto, ils retournent en cours, machin. Non, non, mais attendez, on leur a volé des moments de construction identitaire. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas pu se construire. On fait pas pause avec l'être humain, c'est pas 1-0. On n'est pas encore des algorithmes, n'en déplaise à certains transhumanistes. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas pu se construire. Et donc, ça, c'est quelque chose dont la société civile doit absolument prendre conscience, parce que on a vraiment violé leur construction. Et pour moi, ça, c'est très, très grave.
La société civile, elle ne réfléchit plus sur le temps long, Marie-Estelle Dupont. C'est comme pour les entreprises. On a dit, on vous a donné des PGE, et maintenant les petites entreprises sont en train de crever parce qu'elles doivent rembourser leur PGE chaque mois. Et ben, c'est la même chose pour le cerveau de nos gosses ou de nos petits-enfants.
Mais on ne s'inscrit plus dans le temps long, tout à fait. On est dans l'instantanéité et c'est dramatique. Ça fait des syndromes dépressifs.
Et des clients alors chez Marie-Estelle Dupont?
Oui, mais vous savez...
c'était une boutade, vous l'aviez compris.
J'aimerais avoir plus de temps pour travailler, ne pas avoir... Surtout, j'aimerais avoir des clients qui viennent pour travailler sur eux, et pas des petites filles de 7 ans qui viennent parce que elles ont vomi dans leur masque et que la maîtresse leur a interdit d'enlever le masque. Vous voyez ce que je veux dire?
Dramatique. Merci Marie-Estelle Dupont de nous avoir parlé de votre nouveau livre « L'antimère ». Une psychologue raconte comment elle a survécu à une mère maltraitante. C'est chez Albin Michel. Merci.